le temps buissonnier. Dans le cadre des 33e journée européenne du patrimoine qui se déroule le 17 et 18, donc aujourd'hui c'est le dernier jour, nous recevons aujourd'hui Corinne Faugeron, qui est conservatrice du musée Gaumont, qui se trouve à Neuilly-sur-Seine. Le temps buissonnier sera partagé donc avec Corinne Faugeron et Dominique Ehrenfried, qui, elle, est programmatrice, directrice de la programmation même, de la Fondation Pathé Jérôme Sédoux. Carmela et son grillon Negrito sont venus passer quelques jours à Paris pour sentir l'air de la rentrée. Ils ont dit précisément sentir l'air de la rentrée sociale. Les vacances, comme vous le voyez, ne les ont pas ramollis, si j'ose dire. Bien entendu, je les ai hébergés tout en craignant de devoir répondre devant la justice du fait d'avoir hébergé une mineure, Carmela n'a pas encore 10 ans, et un insecte tout noir que les Parisiens n'identifient pas toujours précisément. Comme vous l'aurez compris, Carmela a manqué quelques jours d'école et ses parents ne semblent pas vraiment s'en préoccuper, certains qu'ils sont, que l'on apprend aussi bien dans les aventures, dans la rue ou dans la nature que dans l'école. Bref, rien de bien nouveau pour nos deux petits rebelles. Ah si, si. Carmela porte un t-shirt où est inscrit « Nous serons ingouvernables ». Elle en a fait imprimer plusieurs d'ailleurs. Oui, les règles d'hygiène sont les seules règles qu'elle respecte à la lettre. Le soir de leur arrivée, donc, j'ai eu droit à leurs remarques sur le quartier et rien ne semble échapper à leur regard critique. Mais pourquoi personne ne fait rien pour aider ces adolescentes qui se prostituent en bas de tes fenêtres là ? On pourchasse les migrants, mais on ne fait rien pour protéger les mineurs dans la capitale ? Carmela était bouleversée. Bouleversée autant que révoltée. Et Negrito, son ami, le grillon, toujours aussi ironique, ajouta « Te fatigue pas, Carmela, tu vois bien que notre amie est aussi aveugle que sourde. Ne va pas lui gâcher son été indien. » Ok, les amis, ok. Je vous signale que je suis épuisée et que si la soirée débute ainsi, moi je vais me coucher. Carmela ravala sa rage. « Bon, on en reparlera demain, d'accord. Mais une petite question. Tu as remarqué que les bancs qu'il y avait dans ta rue ont été enlevés ?»« Oui, c'est vrai, cet été, oui. Et les riverains ne protestent pas là non plus ?» Ben, écoute, je ne sais pas. J'ai bien vu qu'elle retenait du regard Negrito qui volait déjà vers moi pour se poser sur le bout de mon nez, comme il le fait lorsqu'il veut me prendre à partie. Elle poursuivit donc. Sans les bancs, comment se reposeront les vieux sur le chemin de leur course? Sans les bancs, comment s'embrasseront les amoureux? Et les gens qui ont envie de parler dans la rue, ou simplement de s'asseoir pour regarder les gens passer, ou les nuages, ou lire, ou fumer, ou dormir? Dormir, m'étonnais-je? Oui, dormir. Tu ne vois pas tous ces gens assis ou couchés sur des cartons, sur les trottoirs? Mais tu ne vois donc rien? Si, bien sûr. Si, mais tu passes ton chemin. Negrito se posa sur l'épaule de son ami et souffla dans un soupir découragé. Paris veut accueillir les JO, le monde entier même, mais il a accepté que les banques envahissent les rues, que les passants ne fassent plus que passer et surtout ne s'assoient pas, ne se parlent pas, ne se regroupent pas, ne rêvassent pas. On ne sait jamais si leurs rêves échangés devenaient une utopie en action, qui sait ? Ben oui, c'est un coq aujourd'hui, c'est pas un grillon, parce que le coq, c'est quand même un emblème important, Corinne Faugeron, et vous qui êtes conservatrice du musée Gaumont, il a même une histoire liée à l'évolution de la technique cinématographique, ce coq.
Absolument, ce coq est la preuve qu'on est capable d'enregistrer en même temps le son et l'image, parce que normalement c'est associé à une image, il est sur une petite planchette, sur un pied, avec un gros, une grosse Marguerite Gaumont, pour montrer que c'est bien un film Gaumont, mais c'est quand même un coq, l'emblème de Pathé qui a été choisi, et ce coq avance sur sa planchette, et au bout de la planchette, il crie. Il pousse son cri. Et c'est la preuve scientifique qu'on a réellement réussi à enregistrer le son et l'image en même temps, ce qui était un vrai défi. On est en 1910. Depuis 1906, Gaumont fait des phonoscènes, donc des films parlants où en fait c'est tourné en playback, c'est-à-dire qu'on enregistre le son, où on a le son, on projette le son, et les acteurs vont mimer le son et vont faire croire que c'est eux qui chantent. Donc c'est du playback. Et puis ils continuent les recherches parce que Gaumont, depuis 1881, est persuadé que l'image doit être animée, sonore, en couleur et en relief. Il a 17 ans quand il écrit ça dans ses...
17 ans ?
Il a 17 ans, en 81, et bien sûr, il n'y a pas du tout de cinéma qui existe.
Mais c'est pas un ingénieur, c'est pas...
Non, c'est son utopie à lui. C'est son utopie, c'est que cette image soit animée, sonore, en couleur et en relief. Et toute sa vie, il va finalement travailler dans ces quatre directions. Le relief, il va l'obtenir très vite, et là, pour le coup, il n'est pas du tout un inventeur de quoi que ce soit. Il va faire des appareils photo en relief, de la stéréoscopie qui marche très très bien. Et puis, le reste, il le met au point. Et donc, sur le son, dès 1900, il fait ses premiers essais de cinéma sonore. Mais là, c'est tellement artisanal que ça marche qu'à moitié bien. Il continue, et en 1906, il met au point une sorte d'appareil qui va permettre d'obtenir le synchronisme total entre le phonographe et le projecteur.
Et ça s'appelle
ce qu'on appelle le chef d'orchestre, cet appareil.
Ah ouais.
Et l'ensemble de l'appareil s'appelle le chronophone, puis le chronomégaphone, qui est encore plus important. Et aujourd'hui, Gaumont et les personnes qui viendront à ces visites de ce week-end pourront voir le chronomégaphone Gaumont, puisqu'on en a acheté un l'année dernière, en 2015. Et voilà, on a toute son histoire et on racontera tout ça. Et on montre le coq, puisque ça fait partie des films qui sont montrés par le chronomégaphone.
Alors, on va écouter aussi une chanson de ce chronomégaphone. C'est une bande son qui est censée donc représenter...
Alors là, c'est Mayol. Et c'est vraiment Mayol qui est filmé.
C'est lui qui chante.
Cette fois-ci, c'est son disque. Et c'est lui qui est filmé sur d'autres scénettes ou phonoscènes, on appelle ça des phonoscènes. On est moins sûr qu'il s'agisse réellement du vrai interprète.
On écoute Mayol.
Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine, d'où venez dans tout ce bruit chez vous cette nuit? Vous battiez-vous ma charmante, étiez-vous souffrante? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. Mais nous répond Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête. Qu'est-ce qui vous a pris? Le bruit qui vous a surpris hier dans ma chambrette, c'est mon chat, sur le coup de minuit, qui a mangé la souris. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, est-ce vrai ce qu'on dit sans façon dans toute la maison? On prétend que vous êtes ma chère très hospitalière, que le voisin d'en bas sûrement serait votre amant. Mais nous répond Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête, c'est vilain propos, je n'ai pas pour amant, c'est faux, vous jure sur ma tête, le voisin d'en bas, car c'est celui qui habite en haut. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, pourquoi toujours me refuser un petit baiser? Ne soyez pas incrédule, j'ai mon cœur qui brûle. Ne pouvez-vous pas un peu éteindre son feu?
Alors, je sais qu'il ne reste qu'aujourd'hui et que, alors il faut le dire, pour aller au musée Gaumont, ce n'est possible que lors des journées du patrimoine. C'est dommage, mais en même temps, c'est comme ça. Ça en fait aussi son
l'exception
prix.
L'exception et son prix, voilà.
Ouais.
Mais c'est notre bureau et donc on ne peut pas accepter d'avoir...
Alors qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir des instruments, j'imagine.
Alors on va voir des appareils. Hein.
Des appareils, pardon.
Des appareils, donc ce fameux chronomégaphone qui est vraiment un objet exceptionnel et unique. Donc ça, et on racontera toute son histoire qui est absolument passionnante.
C'est vous qui racontez?
Nous sommes trois. Nous sommes trois et voilà, comme il y a six visites par jour, eh bien, on fait chacun deux visites parce que sinon, c'est tout de même un petit peu fatigant. Donc ça dépend, mais on a vraiment, on sait exactement ce qu'on va raconter. On a vraiment le même fil rouge tous les trois et on raconte l'histoire de Gaumont et on va mettre en avant Gaumont. Gaumont a eu dans les années 10 une devise pour ses actualités qui s'appelle Gaumont toujours le premier. Et en fait, c'est pour dire que pour les actualités, sont les opérateurs Gaumont qui arrivent les premiers avec les actualités dans les salles. Mais c'est un petit peu la devise de Gaumont. Gaumont toujours le premier. Le problème, c'est qu'il est toujours le premier, mais il est aussi toujours pas toujours le dernier, mais il a un petit peu de mal après à augmenter sa puissance sur sa découverte. Il est le premier à faire du cinéma sonore, puisqu'à partir de 1906, il commercialise pour la première fois ses appareils. De la couleur, à partir de 1912-1913, où là, il réalise des films en couleur naturelle grâce à la trichromie, qui sont absolument exceptionnels.
Mais des fictions ou des
non.
documentaires ?
Là, en fait, les fictions, ça n'a pas été possible, car les acteurs ont refusé de tourner.
Non.
Car pour ce procédé, il fallait énormément de lumière, et donc il parlait de coups de soleil électrique parce qu'on leur mettait les projecteurs trop près de la figure.
Et
donc
brûlés, ça, quoi.
On les brûlait. Exactement, donc ils ont refusé, ce qu'on peut comprendre, et finalement ça n'a pas fait d'histoire. Il n'y a eu que des documentaires tournés, mais il y en a un que vous pouvez d'ailleurs voir sur le site du Musée Gaumont, vous faites Musée Gaumont et vous allez sur le site, et c'est un documentaire extraordinaire sur Deauville en 1913, et là où on voit la plage avec ses vraies couleurs, la couleur des parasols, la couleur des tenues, la couleur des maillots de bain, et c'est extraordinaire, les tentes, etc. On se croirait dans des tableaux de Boudin, c'est vraiment magnifique.
Comment les enfants réagissent-ils quand ils viennent visiter votre musée? Ils sont, eux qui sont dans l'ère du numérique, est-ce qu'ils sont fascinés par ce qu'ils vont voir? Parce qu'en dehors des appareils, qu'est-ce qu'ils vont voir?
Ils voient des appareils, puis ils voient des éléments de décor, ils voient des affiches.
On a beaucoup d'affiches,
hein, on a plus de 11 000 affiches, une collection de plus de 11 000 affiches, donc c'est qui n'est
ça,
pas
ça
fini.
Ça doit moins leur parler peut-être.
Ça leur parle moins, mais là je pense que je vais en montrer une qui va plaire, qui s'appelle Un vrai trésor. Et ce vrai trésor, en fait, c'est un cochon. Et un cochon qui fait des crottes, qui sont des louis d'or.
Alors du coq au cochon, il y aura plein d'animaux, je crois, cette année.
On a choisi le thème des animaux parce que cette année, on a fait à la fin de l'année dernière, est sorti le deuxième Belle et Sébastien, l'aventure continue, donc avec toujours Belle. Et là, ils verront des Belles, des grandes Belles, mais en peluche, parce que les animaux, on aime bien qu'ils puissent vivre et on les conserve pas dans les musées. Et puis,
ce sont des peluches qui ont servi pour le film.
Ce sont des peluches qui ont servi pour la sortie du film. C'est-à-dire qu'elles ont tourné avec le réalisateur et les acteurs. Elles ont fait toute la France et pour faire les photos.
Mais elles n'ont jamais fait de la figuration, enfin du doublage.
Non.
La vraie Belle de loin.
Dans le film, c'est une vraie chienne. Dans le film, c'est une vraie chienne. Mais pour les photos, pour dire j'ai été photographiée avec Belle, mais avec aussi l'acteur, le réalisateur, eh bien c'était la peluche.
Ils vont voir des costumes aussi.
Ils vont voir les costumes de Hibou. Le film de Ramsay. Donc, il y a le costume de Hibou de Ramsay et puis de le panda. Et puis, on va montrer aussi, pour les plus grands, les cornes d'Hannibal. Dans Hannibal, il y a des cornes de cerf qui sont tout à fait symboliques, etc., autour desquelles il crée des montages absolument effrayants. Et donc, on a aussi ces cornes de cerf. Et puis, on va montrer des affiches avec... On a un animal citoyen, c'est dans La vache et le président, et film de Muil. Et donc, cette vache est une vache citoyenne, donc ça c'est assez intéressant. La vache étant un animal extrêmement vedette, nous avons La vache et le prisonnier, les mémoires de la vache Yolande, La vache et le président. Donc vraiment, la vache a une grande carrière au cinéma.
Bien, alors toute cette histoire et bien d'autres, on peut les retrouver aussi, puisqu'on ne peut aller au musée Gaumont que lors des journées du patrimoine, sauf si on est chercheur, étudiant, j'imagine que vous recevez ce rendez-vous. Sinon, c'est une fois par an, il faut s'inscrire. Mais on peut retrouver aussi toutes ces histoires à travers pas mal de livres que vous avez coédités ou édités. Gaumont, depuis que le cinéma existe, de François Garçon, qui, quoi, quand, où, qui est vraiment dans les découvertes Gallimard. C'est un livre très... très bien fait, très bien documenté. Musée Gaumont, Morcet choisi, c'est toujours chez Gallimard. Nous avions reçu aussi à l'époque Objet cinéma, c'était un livre, mais là, c'est pas forcément sur Gaumont, chez Gallimard Jeunesse. Donc voilà, il y a quand même pas mal de livres qui permettent, en attendant les journées du patrimoine, d'aller voir tout ce que vous proposez. Et puis bien sûr, les films, notamment les films jeunesse. Vous en avez amené deux, Les Malheurs de Sophie, de Christophe Honoré, et donc Belle et Sébastien.
Alors, Les Malheurs de Sophie, c'est vraiment un très joli film. Enfin, moi qui... Enfin, ma maman me lisait toute la Comtesse de Ségur quand j'étais petite, et j'ai vraiment retrouvé cette Comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie, et je lisais dans le document pédagogique qui accompagnait que justement l'écriture de Madame de Sévigné, c'était une écriture qui était faite pour la lecture à haute voix. Eh bien, je confirme, en tout cas, j'ai un souvenir formidable de ces lectures.
Le temps buissonnier, Aline Paillet.
Alors Corinne Forgeron, vous avez parlé du coq et de la marguerite, et le coq, vous avez dit le coq de pâté. Donc nous réunissons aujourd'hui Pâté et Gaumont, qui étaient concurrents, et ô combien, pendant tant d'années. Et vous, Dominique Ehrenfried, vous représentez donc la fondation Pâté Jérôme Sédoux, vous en êtes la directrice de la programmation, et d'une salle, d'abord l'architecture. Je pense que déjà pour les journées du patrimoine, c'est pas mal de venir voir le bâtiment.
Oui, alors la fondation Jérôme Sédoux Pâté, le bâtiment a ouvert ses portes en 2014, donc ça fait 2 ans. Et il a été construit par Renzo Piano, donc c'est vraiment une architecture magnifique. Et le clou de l'architecture du bâtiment, c'est une coque de verre qui est recouverte de 7000 plaques métalliques percées. Et c'est une verrière absolument somptueuse qui habituellement n'est pas ouverte parce que c'est aussi l'endroit qui abrite les bureaux de la fondation. Donc là, pour les journées du patrimoine, on va permettre aux visiteurs de visiter l'ensemble du bâtiment et de l'œuvre de Renzo Piano.
C'est pas mal de travailler sous cette...
Ah, c'est magnifique. Non, mais je pense qu'on a... Je ne connais pas tous les bureaux à Paris, mais ça fait partie des magnifiques bureaux parisiens.
Alors, ce lieu qui est très près de la place d'Italie, à Paris, est tout dédié au muet.
Oui, alors, il est tout dédié, le bâtiment est dédié au patrimoine de la société Pâté. Donc, depuis les débuts de la société qui s'est créée en 1896, et c'est aussi un petit musée du cinéma, puisque la société Pâté est née avec le cinéma, puisque Pâté, comme Gaumont...
Ah, vous disputez pas ce micro. Hein.
Un an près.
Un an près. À l'industrie, ça fait
voilà,
beaucoup.
Mais à l'échelle de 120 ans, un an, c'est très peu. Donc, c'est aussi l'histoire, en quelque sorte, l'histoire du cinéma. Donc, on accueille des chercheurs aussi. Mais nous, contrairement au musée Gaumont, on est ouvert toute l'année. Et il y a une partie du bâtiment qui est ouverte au public, avec où on présente des expositions. On a aussi une galerie des appareils, où on présente 150 caméras et projecteurs fabriqués par Pâté des débuts jusqu'au milieu des années 70. Et surtout, la présentation de l'ancêtre du home cinéma, puisque à partir des années 30, Pâté s'est vraiment concentré sur le cinéma chez soi au travers de la caméra Pâté Baby. Donc je ne suis pas autant spécialiste que Corinne, parce qu'il y a une spécialiste de ces appareils à la Fondation qui justement sera là pendant les journées du patrimoine et qui expliquera aux visiteurs l'histoire de ces appareils.
Alors vous avez aussi un parcours qui s'appelle parcours ciné-spectacle, le petit cinématographe, et qui est vraiment dédié aux enfants, celui-ci.
Oui, alors juste pour revenir à votre question précédente, et donc on a aussi une salle de cinéma qui est dédiée au cinéma muet. Et parmi la programmation de cette salle qu'on a nommée Charles Pâté, tous les mercredis, on présente un parcours ciné-spectacle à destination du jeune public sur l'histoire du cinéma. Donc c'est un parcours qui reprend l'ancêtre du cinématographe, donc la lanterne magique, sous forme de conte. Ensuite, le spectacle se poursuit par une projection de petits films muets des premiers temps du cinéma accompagnés au piano, en ciné-concert. Ensuite, les enfants peuvent jouer avec le pianiste et on leur montre un petit film et ils décident du thème musical et on voit que on peut interpréter un film différemment selon l'interprétation musicale.
Ce sont vraiment des ateliers.
Oui, voilà, c'est un atelier. Ensuite, il y a une visite de cette galerie des appareils, alors à la portée des enfants, et puis ça se termine par un goûter. Donc ça, c'est le petit cinématographe.
Voilà, alors on va écouter là juste un petit extrait de la bande-son, parce que c'est vrai que parfois la musique convoque les images. Cette musique, parce que comme dans cette salle qui est dédiée au muet, il y a donc ces ateliers avec la présence d'un musicien, d'un piano et d'un musicien derrière le piano qui improvise, puisque c'est ça aussi la règle du jeu du muet. Vous avez un partenariat, je crois, avec la classe d'improvisation de Jean-François Zigel.
Oui, alors tous les films qu'on présente muets sont accompagnés au piano comme ils l'étaient autrefois. Et on a un partenariat avec la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zigel, qui a une classe au Conservatoire National Supérieur de la Musique et de la Danse de Paris. Donc ce sont ses élèves, il y a environ une petite dizaine de pianistes qui tournent et qui interprètent les films.
Alors, est-ce que chaque fois, ils renouvellent, parce que vous les avez vus peut-être plusieurs fois, leur thème, est-ce qu'ils regardent les films avant? Comment ça se passe?
Oui, alors quand on dit improvisation, c'est qu'il n'y a pas de partition écrite.
C'est ça.
Mais il est bien entendu qu'ils regardent les films avant, on fait des répétitions, ils s'inspirent du film. Et puis, je pense que, enfin, d'une séance à une autre, il y a des thèmes qui reviennent. Mais c'est vraiment selon leur inspiration. Donc, quand on voit une représentation, c'est jamais, enfin, une deuxième fois, c'est jamais tout à fait la même chose, la même interprétation que la première fois.
Alors, justement, on a des images qui, grâce aux fondations, aux musées, à tout ce travail qui est fait, restaurer, on parlera tout à l'heure des premiers films d'Hitchcock qui étaient muets. Mais est-ce qu'on a des traces de ce qui se jouait dans les salles au moment du muet? Peut-être chez Gaumont.
Alors, chez Gaumont, oui, puisque Gaumont propose à ses exploitants des listes de musique. Donc, tel mouvement pour accompagner telle scène, tel mouvement de telle œuvre, etc. En général, il pique dans le répertoire général. Mmh. Et donc, on a comme ça des listes, ils appellent ça des feuilles d'accompagnement musical, avec des propositions. Alors, pour certains films, c'est très précis, tel mouvement pour telle scène. Pour d'autres, on a juste la liste. Et puis, c'est le chef d'orchestre du Gaumont Palace, parce que Gaumont a une très grande salle, qui est le Gaumont Palace, qui a été la plus grande salle du monde de sa création en 1911 jusqu'à sa destruction en 1972. Il termine quand même avec 6000 places, c'est-à-dire l'équivalent du Zénith.
Ah oui.
Et donc, le chef d'orchestre de cet orchestre du Gaumont Palace, puisqu'au début, c'est forcément, il faut un orchestre, hein, sinon il n'y aurait pas de son, il y a un orchestre de 60 musiciens, propose, et lui aussi fait des musiques qu'il va proposer à tout le monde en disant, voilà. Et il y a des partitions, des enregistrements, non, mais des partitions, et il y a des partitions qui sont conservées à la Cinémathèque française.
D'accord. Et pour vous, à la Fondation Pathé, vous avez par exemple des enregistrements ou pas?
Non. Non, on n'a pas d'enregistrement non plus.
C'était le jeu de l'improvisation, finalement.
Voilà.
Alors, moi, j'ai eu la chance de venir voir le démarrage, le lancement de la série des films muets d'Alfred Hitchcock. Ils sont au nombre de 9, je crois. Ils sont donc muets. Ils ne sont pas tous du suspense, loin de là. Je crois qu'il y en a qu'un, d'ailleurs, vraiment, celui que j'ai vu. Et là, il y avait justement le pianiste qui improvisait. Donc, c'est un moment important. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait quasiment pas d'arrêt de la musique. Ça veut dire que des images ne suffisaient pas à elles-mêmes. Pourtant, elles sont tellement magnifiques que moi, j'ai fait le pari que ça pouvait marcher de temps en temps dans le silence.
Alors ça, c'est vraiment l'interprétation du pianiste. Il y a des pianistes qui font des silences, il y a des pianistes qui s'arrêtent, qui laissent des respirations, d'autres non. Donc là, c'est vraiment ce jour-là, le pianiste qui a ressenti le film, enfin de l'accompagnement musical tel qu'il l'a présenté. Donc il n'y a pas de règle. C'est vraiment, comme c'est de l'improvisation, c'est vraiment l'humeur du pianiste ou ses émotions qui ressortent. Voilà, donc...
Alors cette série de neuf, c'est tout le mois de septembre, je crois.
Oui, c'est tout
là,
le mois de septembre.
Alors là, elle n'est pas destinée forcément aux enfants, mais...
C'est pas une programmation destinée aux enfants particulièrement, mais en même temps, je dirais que tout le cinéma muet peut être vu par les enfants, parce que c'est très, très naïf, enfin on n'est pas dans la violence qu'on peut trouver aujourd'hui.
En même temps, moi j'ai frissonné, j'ai eu peur dans le film les cheveux d'or, il y a des moments intenses.
Alors les enfants
évidemment c'est pas du sang, c'est pas du...
Voilà, les enfants aiment bien avoir peur aussi.
Bah oui, donc, oui, bien sûr.
Mais disons qu'il n'y a pas de scènes qui ne peuvent pas être...
Qui peuvent choquer.
Voilà, qui peuvent choquer. Mais toujours pour en revenir aux Journées du patrimoine, on présentera des petits programmes de films courts, des premiers temps du cinéma, donc des films qui ont été réalisés entre 1900 et 1910. Et à cette époque, il n'y avait pas de long métrage, donc c'était des petits films courts qui étaient des petites scénettes, donc sur des thématiques drôles, comiques, féeriques, dramatiques. Donc on fera des séances, toujours accompagnées au piano, bien sûr, de ces petits programmes courts qui, ça, sont très rigolos à voir par les enfants.
Ça marche toujours, la magie du cinéma, y compris muet, sur les générations qui sont habituées à des montages rapides, à de la couleur, à du son énorme.
Alors, on a des enfants. Alors, bien sûr, quand on... Par exemple, Chaplin, c'est évident. Donc, les enfants viennent, ils rigolent, ça leur plaît... Et on a vraiment du monde quand Buster Keaton. Mais les enfants qui viennent d'ailleurs à ce petit cinématographe et qui découvrent ces petits films muets, ils adorent aussi. Enfin, ils sont surpris. Ils sont vraiment au premier degré. C'est des spectateurs au premier degré sur des scènes qui peuvent paraître un petit peu désuètes. Ils éclatent de rire sur les histoires du gendarme. C'est un peu les débuts du cinéma, c'est un peu guignol. Donc c'est vraiment très agréable d'assister comme ça à une séance où il y a des enfants parce que voilà, c'est très joyeux.
Il y a le charme aussi pour les adultes de ces images anciennes avec par moments la fragilité donnée aussi à cause de même si ça a été admirablement restauré. Et ça marche toujours pour vous, par exemple, Corinne Faugeron, quand vous...
C'est très intéressant, émouvant. Très émouvant et assez incroyable. Mais c'est surtout ce qui est formidable, c'est moi j'étais fan de ce cinéma. Moi j'ai beaucoup regardé le ciné-club et le cinéma de minuit. J'ai découvert des tas de choses comme ça. Et je dois dire qu'en 87, pour le cinquantenaire de la colline de Chaillot, justement pour la première fois, on a eu l'idée d'accompagner par des musiques ces projections de cinéma. Et en fait, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on s'aperçoit que c'est le respect de ce que ça a été dès le début. Ça n'a jamais été silencieux. Ça a toujours été accompagné et de musique. Et ça change beaucoup les choses.
Alors, je voudrais juste, puisqu'on rend beaucoup d'hommage aujourd'hui et que c'est les Journées du patrimoine, et il n'est pas du patrimoine, ou en tout cas, il est extrêmement vivant et créatif. Rendons hommage aussi à quelqu'un comme Marc Perron, un musicien qui accompagne aussi, mais pas au piano, mais à l'accordéon. Et ça aussi, beaucoup de charme et d'intérêt de voir aussi ces instruments-là qui peuvent accompagner un film muet. Je vous remercie toutes les deux d'être venues dans notre maison qui se visite aussi pour les Journées du patrimoine. Et je voudrais juste rappeler, vous avez évoqué, vous, Dominique Ehrenfried, Charlot, il y a Petit Charlie deviendra Charlot de Bernard Chambaz, illustré par PEF aux éditions Rue du Monde, qui est un tout petit livre avec beaucoup d'iconographie et une belle histoire qui nous présente Charlot. Voilà, vous pouvez initier vos enfants au cinéma par tellement de voix que ça serait curieux que vous n'y arriviez pas. Merci à tous d'être venus dans cette émission. Le temps buissonnier, c'est fini. Vous pouvez télécharger, réécouter, trouver les liens vers nos invités sur le site de France culture.fr. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe. Il y a aussi un générique. Aline Payet, Laetitia Coya, Annie Comier à la technique. Aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontanille. Je vous laisse à l'écoute des programmes de France Culture et d'abord le tout premier journal de la journée.